La Fédération des radios communautaires associatives et assimilées du Bénéfercab a tenu ce samedi 9 juillet 2016 sa 6e assemblée générale de compte rendu et de remembrement. C'était à l'hôtel Serocora 3 de Parakou. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ne semblent pas démordre. Ils continuent de boycotter les examens prévus à la faculté des lettres, arts et sciences humaines Flash. Vous entendrez le secrétaire général de la FNEB dans cette édition. José Tobonon, c'est lui qui est de l'autre côté de la baie vitrée devant ce micro. Kéké Liodio, mesdames, messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue dans cette édition.
J'écoute la 103.8 FM.
Ce n'est plus un secret pour personne. Depuis ce vendredi 8 juillet 2016, le directeur des examens et concours a procédé à la délibération en pourcentage du résultat du brevet d'études du premier cycle BEPC. 16%, c'était le taux d'admissibilité au plan national. Les Béninois se sont prononcés, les citoyens d'Alada en particulier. Rodrigue Kobi a fait le tour.
Les résultats du BEPC, brevet d'études du premier cycle, session de juin, sont tombés. Ce vendredi, la direction des examens et concours a délibéré. 16%, c'est le pourcentage au plan national. Résultats pas reluisants, faisant suite à ceux du CEPE, les populations ont des avis partagés sur la question. Nous avons tendu notre micro à quelques citoyens de la commune d'Alada. On les écoute.
Oui, c'est un résultat qui inquiète, mais et personnellement, moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Sinon, c'est le vrai visage de ce qui se passe dans les collèges aujourd'hui. C'est un résultat réel. Lorsque vous voyez déjà les apprenants, leur comportement, on sent une démission totale des parents. Donc, déjà, avant même l'examen, la phase écrite de l'examen, moi-même, personnellement, j'ai déjà imaginé que si les résultats devaient donner une réalité, on attendrait que ces résultats. Moi, je suis très content que le gouvernement de la rupture continue dans la menacer pour que désormais nous aurons de vraies images des résultats scolaires.
En réalité, il n'y a pas d'inquiétude dans la matière parce que d'abord, plus de nous critiquer le nouveau programme et nous savons réellement qu'il faudrait qu'un jour, nous puissions quand même tourner dos à ce désastre de l'éducation-là. Donc si les gens ont pris la mesure de vouloir corriger le tir en réaménageant tout petit peu les résultats, moi je vois que quand même c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre quand même. Mais pourvu que et ce truc-là quand même soit beaucoup plus ça persévère, il faudrait que nous aillions vraiment au bout vraiment de ce qu'ils ont commencé avec le nouveau gouvernement de Talon. Nous savons que quand même ils vont redonner vraiment le blason de notre quartier latin qu'on était auparavant.
J'ai appris le résultat catastrophique du taux de réussite. BEPC 16%. C'est de bonne guerre, ça a reflété l'image réelle de l'éducation au Bénin actuel. Les responsabilités sont partagées du côté étatique, du côté professoral, du côté parental des élèves et aussi des élèves. Actuellement, les élèves, il n'y a plus le suivi comme cela se devait à la maison. Ils sont plus calqués sur les feuilletons télévisuels et sur le phénomène du portable, où chaque élève actuellement a un portable, au lieu d'apprendre des noms, il préfère naviguer, il préfère surfer, envoyer des messages, même chatter son professeur en ligne. Nous, quand on était élèves, on bastonnait à tout bout de champ, mais aujourd'hui, un élève à qui le professeur ou bien le maître soulève un brindis sur lui, il va le convoquer, c'est le professeur ou bien le maître qui est traduit directement en justice, même condamné. Mais ça a fait que les maîtres se sont souvenus, les professeurs se sont dit, quel qu'en soit la tête que l'élève est en train de faire, comment le laisser? Il ne se gêne plus. Les élèves, ils font, on leur donne des exercices, ils ne font pas, ils viennent s'asseoir. Le professeur va faire quoi? Le maître va faire quoi? Les professeurs en question ne sont même pas formés. Et va inculquer quelle notion aux apprenants? Rien, aucune notion. Le niveau réel de l'éducation s'est chuté depuis près de 12 à 15 ans. On est dans une fourchette de 15 ans. L'école béninoise qui était le latin d'Afrique, ou le latin du monde, n'a plus sa place actuelle. Je suis en train de faire des prévisions par rapport au résultat du bac aussi. Ça va encore plus chuter.
Dirigeants, enseignants, apprenants, parents d'apprenants, les responsabilités sont en tout cas situées, reste à les assumer.
Reste à les assumer, Rodrigue Kobi. Merci. Restons dans le monde éducatif pour dire que les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ne semblent pas démordre. Ils continuent de boycotter les examens prévus à la faculté des lettres, arts et sciences humaines Flash. Ils l'ont fait savoir par l'entremise des responsables de la Fédération nationale des étudiants du BNEF-NEB au cours de la semaine dernière. Écoutez le secrétaire général de la FNEB.
Modalités selon chaque faculté, non. Donc, première orientation, nous allons poursuivre les négociations, que ce soit au niveau du décanat Flash, au niveau du rectorat, et aussi au niveau des autres décanats des facultés de l'université d'Abomey-Calavi. Deuxième orientation, nous allons adresser une note aux autorités décanales de la Flash pour leur demander les modalités d'évaluation de rachat à leur niveau. Quand nous aurons ces modalités d'évaluation de rachat, nous reviendrons ici les analyser et tirer d'autres conclusions. Donc la conclusion générale de cette assemblée générale est que nous ne sommes pas encore satisfaits. Donc la conclusion de l'assemblée générale du 24 juillet ne va pas changer. Nous continuons et nous réitérons le boycott des examens prévu à la Flash jusqu'à nouvel ordre. Et l'autre grande chose que nous allons vous dire en réponse de quelques interventions, c'est que nous allons préserver la quiétude à l'université d'Abomey-Calavi et on n'ira pas tout de suite à la paralysie générale au niveau des autres facultés, mais on sera en train d'analyser, de nouvelles orientations pour le bien-être de tous les étudiants béninois et de tous les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi.
La 103.8 FM.
La Fédération des radios communautaires associatives et assimilées du Bénin-Fercab a tenu ce samedi 9 juillet 2016 sa 6e assemblée générale de compte rendu et de remembrement à l'hôtel Serokora 3 de Parakou. Le thème central de cette assemblée générale s'intitule « Gouvernance locale et radio communautaire ». Ainsi, les participants ont réfléchi, entre autres, sur comment le gouvernement local, c'est-à-dire l'État décentralisé, peut conjuguer avec les radios communautaires pour le développement de chacun et de tous. On écoute ici le président du conseil d'administration du FERCAB. Il est suivi du représentant du conseil national du patronat de l'audiovisuel CNPA et du représentant du maire de Parakou.
Notre pays renforce chaque jour son processus démocratique. Cela se traduit par des élections libres, régulières et transparentes. Au niveau des entités associatives comme la nôtre, nous avons toujours travaillé à faire du respect des textes statutaires et réglementaires une priorité, gage d'une démocratie agissante. C'est pourquoi, en cette circonstance exceptionnelle, où le monde de la presse communautaire se réunit pour échanger sur le devenir de sa spécificité médiatique, je voudrais espérer que nos travaux contribuent non seulement à renforcer les acquis de nos années d'expérience dans l'accompagnement des communautés à la base, mais aussi et surtout de permettre aux autorités à divers niveaux de prendre conscience du rôle des radios communautaires dans le processus de démocratisation et du développement local. À cet effet, j'invite les autorités en charge de la réglementation médiatique et les autorités à divers niveaux à plus d'attention à l'endroit des radios communautaires afin de leur permettre de contribuer efficacement à l'information, la formation, le divertissement des communautés à la base.
Au nom du président Malik Omilan du CNPA et au nom de tout le bureau du CNPA, j'ai l'honneur de vous présenter toutes mes félicitations pour cette assemblée générale de remembrement et de compte rendu. Compte rendu, remarquablement, cela veut dire que c'est une organisation qui, dans son fonctionnement, est sérieuse. C'est une organisation qui a le souci de compte rendu par rapport aux activités menées par le bureau vis-à-vis des membres. Et en cela, on ne peut que remercier et féliciter cette démarche qui prouve à suffisance, comme des fois la FECAM, qu'on connaît depuis par rapport à sa rigueur, à son sérieux, comme des fois cette FECAM-là compte et se densifie dans ses attributions. Le CNPA s'en réjouit et vous demande de bien vouloir continuer dans cette lancée en vue de solidifier un peu, de consolider les relations, aussi bien au niveau de entre le CNPA et le FECAM, et aussi de considérer un peu la presse, et aussi de même que les radios communautaires associatives qui jouent un rôle majeur dans le paysage médiatique de notre pays.
Vous avez choisi un thème qui entre en ligne de compte, qui ressemble un peu à la vision du maire de Barakou, qui, comme ses prédécesseurs, a choisi de continuer par animer une émission qu'on appelle l'heure de la mairie tous les vendredis, qui permet à la ville de Barakou, aux populations, de rester un peu en phase pour répondre un peu à la gouvernance locale. Comme pour dire que le maire de Barakou est de votre côté, pour ne pas être protocolaire, nous sommes contents de le maire dire, me charge de vous dire, qui reste disposé pour collaborer avec la FECAB, qui désormais aura son siège à Barakou. C'est tout un honneur, ça permet déjà, qu'on le veut ou pas, de faire de la visibilité autour des actions de la ville de Barakou, parce que désormais, notre ville sera un pôle d'attraction, c'est un motif de satisfaction. Vive la FECAB au service de la gouvernance locale, vive la ville de Barakou.
Présent à la cérémonie d'ouverture, le vice-président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, n'a pas manqué de témoigner le soutien de l'institution à la fédération et l'exhorte à l'accompagnement dans l'autorégulation. On écoute ici Souleymane Achanti, vice-président de la HAC.
En fait, ce que nous attendons de certaines associations professionnelles comme la vôtre, c'est aussi de nous accompagner dans le travail d'autorégulation que certaines entités font déjà, mais que vous pouvez faire à votre niveau. Nous avons constaté avec des échanges d'expérience qu'ailleurs, au niveau de certaines radios comme les vôtres, les gens mettent en place un système de médiateurs qui, en même temps, est l'interface entre l'organe dirigeant et son public. Quand le public a des observations à faire sur le contenu des programmes, quand il y a peut-être des recours à faire par rapport à un programme qui n'a pas toujours respecté les règles d'éthique et de déontologie, plutôt que de s'adresser directement à la HAC ou à l'ODEM, vous pourriez mettre en place un médiateur en interne qui pourrait être l'interface entre l'organe et le public, de façon à pouvoir corriger certains dérapages qui pourraient être relevés par ceux qui suivent vos radios. Et là, nous aussi, ça va nous alléger.
Autre élément dans cette édition, le Conseil des ministres tenu cette semaine est assorti donc de décisions parmi lesquelles la suspension du concours direct au profit du ministère des Finances et autres. Cette décision a suscité assez de mécontents mais aussi un satisfecit auprès d'autres citoyens. Suivons ensemble le secrétaire général de Fécentra Finance, Laurent Métoyon.
On vient réellement de démarrer la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, et que tous ceux qui ont facilité cette fraude soient déchargés de leurs fonctions et remis à la justice, je pense que c'est un courage. Et moi, je l'encourage. Le peuple béninois l'encourage. Et c'est ça qui compte. Il vient de faire le premier pas. Les autres pas doivent pouvoir suivre. On veut voir clair dans machine agricole. On veut voir clair dans PPA2. On veut voir clair dans Maria et dans Maria Glita. On veut voir clair dans la concession de l'Assemblée nationale. Je pense que le peuple attend également le gouvernement de la rupture dans la paix d'Aïvon et également dans la paix SCC, puisqu'il y a plein de gens qui ont été spoliés dans ce dossier. Et si nous avons élu le président Patrice Guillaume-Talon, je le dis, c'est pour voir clair dans ces scandales.
La friperie a plus que jamais gagné le goût des Béninois au plan vestimentaire. Vous et moi, on n'est pas épargnés. Boris Wounsounou s'est intéressé à la chose à travers ce reportage. Suivez plutôt.
surplus américain, aujourd'hui prêt à porter d'occasion, les friperies vulgairement appelées achuta ont gagné de nos jours une place de choix dans l'habitude vestimentaire, aussi bien chez les jeunes que chez les personnes du troisième âge. Le sondage a confirmé que sur 7 tenues dans le port vêtements ou la garde-robe des jeunes, à peine on en trouve 2 en tissu cousu chez un tailleur. Un jean, un t-shirt, un sac au cou et on est dans le style. Pas ce jour de la semaine où jeunes comme vieux ne bénéficient du service de ces vêtements. Témoin du style, un vendeur nous en parle.
Je suis vendeur de friperies. Les jeunes viennent ici beaucoup. Ils viennent beaucoup. Les garçons, les petites filles, ils viennent beaucoup acheter. Ici, il y a des bonnes choses. Des friperies, des sacs, des chaussures. Et la friperie, c'est différent par rapport à les choses de Baba là qui vendent. Et par rapport aux friperies, si tu trouves un friperie et un 3-4 comme ça au soir, un chemise comme ça, ce n'est pas que tu vas trouver même couleur comme et les babas vendent là. Les friperies, ce n'est pas comme ça.
Si le coût attire certains à y accorder leur goût, d'autres stimulants justifient le choix d'autres personnes. Aujourd'hui, la balance vestimentaire est au profit des friperies.
Par rapport à la friperie, bon, moi, si moi je prends ça, moi je suis à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est rare que moi j'amène les pains chez les tailleurs ou les couturiers pour dire que moi je vais à l'écoute quoi que ce soit. Parce que tout d'abord, pourquoi moi ça m'a pris de porter les tissus friperies? Parce que il y a un temps, j'avais amené une paille. L'un de mes panchers, le tailleur. Donc, ce qui m'a cousu là, vraiment, je ne suis pas du tout à l'aise dedans.
C'est parce qu'ils sont faciles à trouver et ils sont jolis en plus. Ce sont des tenues bons à porter quand même. Et après, c'est comment le porter futur. Les tenues cousues, c'est le tailleur ancien. C'est quelque chose d'ancien, quoi. C'est ce que nos anciens parents portaient, quoi. C'est à cause de ça que nous portons les friperies pour l'instant. C'est moins cher. C'est mieux que les pains et autres.
Cette mode à la vogue constitue déjà la bête noire pour l'économie d'autres acteurs de la société. Les tailleurs, génies des tenues locales, deviennent de plus en plus les perdants de ce marché. Le bilan dans leurs ateliers est décevant. Ils ne reçoivent désormais de leurs clients des tissus à coudre que pour des circonstances bien définies.
Avant là, on cousait très bien. Mais nous avons eu à constater depuis un certain moment que les jeunes aiment les trucs de friperie là. Enfin, s'il n'y a pas les cérémonies et autres là, les jeunes n'aiment plus faire la couture. Actuellement, ça ne va plus. La taillerie, ça ne va plus. Si nous allons dire la vérité, avec la taillerie là, ça ne marche plus. Et puis moi, j'ai constaté que c'est à cause de la friperie que ça ne marche plus. S'il n'y a pas les cérémonies, et si les gens ne viennent pas vous demander à faire les tissus de cérémonie là, c'est seulement ça là. Sinon, ça ne marche plus. Les jeunes n'aiment plus arriver maintenant pour dire maintenant je veux coudre pantalon, je veux coudre chemise. Hein, les jeunes aiment plus les friperies qu'autre.
Adopter le style du prêt-à-porter d'occasion ou préférer le port des tenues locales, c'est aux jeunes de décider. Mais sans perdre de vue la sauvegarde de la culture vestimentaire de chez nous.
Page invité.
Pascal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'école à la retraite et vous êtes au Bénin pour la formation continue des enseignants. C'est la deuxième édition. Dites-nous, parlez-nous un peu de votre formation.
C'est une association qui travaille ici au sud avec l'ASVB, l'association Solidarité avec les villages du Bénin, essentiellement à Alada. Et puis au nord, nous travaillons avec la fondation Vie pour tous. Ici, nous sommes pour la quatrième fois en observation formation des maîtres et c'est le second module de formation que nous organisons en juillet à l'intention des enseignants. Il y a 55 enseignants issus de 26 écoles de toute la commune d'Alada qui sont présents dans toutes les matières enseignées, donc le français, l'allemand, l'espagnol, l'anglais, histoire géo, philosophie, éducation physique et sport, SVT, SPCT, mathématiques. Et la particularité de cette formation cette année, c'est que nous renforçons non seulement les compétences par matière, dans les différents domaines d'études et différentes matières, mais nous renforçons également les compétences interdisciplinaires des enseignants. Et nous travaillons à la fois sur des phases pédagogiques et des phases plus didactiques. Ceci dans le but de pouvoir améliorer le niveau de formation des enseignants du Bénin. Il faut préciser que c'est une formation dont le contenu a été proposé, élaboré en concertation avec les responsables locaux de l'ASBB et avec les différents partenaires, à savoir les maîtres, qui sont nos principaux interlocuteurs pour la formation. ZEDAGA est une ONG suisse, donc à but non lucratif, qui est soutenue par un certain nombre de collectivités publiques, 16 communes du canton de Genève, Air France, l'École Polytechnique Fédérale, les éditions Payot, librairie Payot, les éditions LEP, Loisirs et Pédagogie, un certain nombre de partenaires institutionnels privés également, tout un réseau d'écoles et de personnes qui nous aident. Et la formation que nous offrons cette année à l'ADA est offerte, elle est sponsorisée, elle est parrainée par le Fonds Mécénat des services industriels de Genève, à savoir les services industriels de Genève sont la compagnie d'électricité et d'eau, en fait d'énergie de Genève. Et donc c'est eux qui ont offert aux enseignants la possibilité de se réunir à travers la prise en charge des formateurs locaux, nos collaborateurs locaux, la prise en charge des repas et puis du transport du matériel sur place et puis la prise en charge aussi d'un certain nombre de fournitures et de matériel didactique et pédagogique.
Pascal Emery, qu'est-ce que vous attendez des enseignants qui suivent actuellement cette formation?
Eh bien, on attend surtout de la réactivité, à savoir qu'ils nous disent, ils l'ont déjà fait, je crois que pour l'instant ça se passe très bien, ce qu'ils apprécient dans la formation et ce qu'ils voudraient renforcer. Nous avons volontairement fait un programme à la carte. Nous sommes arrivés avec plus de 10 000 documents numériques. Nous avons des milliers d'heures de reportages, de vidéos documentaires que nous allons projeter à la demande des enseignants. Donc nous attendons une ouverture et peut-être pour ce dernier module ou ce module de formation que nous avons ouvert aujourd'hui, une appétence, une volonté, une propension à se tourner vers d'autres disciplines, à savoir que nous sommes persuadés qu'un enseignant ne doit pas être isolé au sein d'un groupe de matières, mais qu'il doit impérativement pouvoir être connecté avec les enseignants des autres disciplines. Je prends l'exemple du français. Le français est une matière essentielle, et toute personne qui maîtrise le français pourra maîtriser des savoirs dans les sciences humaines, dans les langues vivantes et même en sciences expérimentales. Donc pour bien comprendre un énoncé en mathématiques, pour bien comprendre une question en histoire géo, pour bien comprendre un sujet de dissertation en philosophie, il faut bien maîtriser le français. Donc on essaye de rapprocher les disciplines plutôt que de les opposer et, comme malheureusement trop souvent, de les mettre en concurrence, pas tellement entre les maîtres, mais au niveau des élèves. Souvent les disciplines sont hiérarchisées. Pour nous, on essaye de faire en sorte que ces disciplines soient sur pied d'égalité et que c'est ensemble et dans une construction cohérente et collective que les élèves amélioreront leurs compétences. Et pour que les élèves améliorent leurs compétences dans ce domaine-là, il faut que les enseignants améliorent et se perfectionnent dans leurs approches et savoirs interdisciplinaires.
La formation va durer combien de jours?
Alors, la formation dure 5 jours, du lundi au vendredi, le matin de 9h à 9h à 12h, et puis l'après-midi ou la soirée de 13h30 à 16h30, et puis la cérémonie de remise des attestations de fin de formation aura lieu samedi matin à 9h.
Pascal Emery, merci.
Merci beaucoup et je me réjouis d'accueillir la voix de la Lama dans cette formation. Je tiens à dire d'ailleurs que la voix de la Lama est présente sur le site internet de notre association, donc c'est www.zedaga.ch, où nous avons mis en ligne quelques reportages et quelques émissions que vous avez fait sur ZEDAGA. Donc nous tenons aussi à vous remercier et à avoir en nous aussi un partenaire auprès des enseignants béninois. Merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, nous sommes comme ça arrivés à la fin de cette édition du journal Parler. Nous vous remercions de l'avoir suivi. José Tobono était à la mise en onde. Nous vous remercions donc. On se donne rendez-vous dans les prochaines heures. Au revoir.